Proposer des fleurs utiles au jardin qui peuvent séduire les nouveaux consommateurs éco-responsables, c'est le cœur de métier de la société Novaflore. Evelyne Tonelli a interviewé son cofondateur, Julien Jouy.
On a créé la société en 2003 pour, au tout départ, proposer aux collectivités des techniques alternatives de fleurissement. Ce sont des associations de graines de fleurs qui permettent aux collectivités de créer des massifs et des prairies fleuries sur les zones extensives. Donc sur toutes les zones qui se sont créées en dehors du centre ou de l'hypercentre et qui étaient fleuries traditionnellement par de la plante horticole et de la création de massifs. On a cherché à promouvoir les prairies fleuries de par le fait qu'elles elles procuraient moins d'entretien, permettaient de fleurir des grands espaces et elles garantissaient une transition entre les zones très urbanisées et les zones très extensives. On a développé des prairies fleuries pour le fleurissement classique, hein, donc implantation de printemps et fleurissement estival. Et puis après, on a développé des nouveaux produits sur leur demande qui correspondent plus à des concepts de diminution d'entretien, fixation des insectes auxiliaires, des mélanges pour les insectes pollinisateurs, les papillons, etc. De cette expérience avec les collectivités, on a souhaité par la suite proposer aux particuliers des produits parmi ces gammes-là qui pouvaient répondre à des besoins au jardin et essayer de faire rentrer cette notion de biodiversité dans les jardins en positionnant des fleurs qui seraient favorables aux insectes, pollinisateurs, aux papillons, aux oiseaux et également qui pourraient avoir un impact sur leur manière de concevoir le jardinage dans un espace esthétique, mais aussi dans le potager. On a proposé dans un premier temps les prairies fleuries comme un nouveau produit dans le jardin pour créer facilement des massifs de fleurs. Et puis cette année, on lance l'espace biodiversité qui se compose de 50 fleurs utiles. Donc chacune a sa spécificité. Pour que ce soit pédagogique et faciliter le choix des jardiniers, on les a regroupés dans des grandes familles. Donc on a 5 grandes familles, des fleurs utiles au potager, où là on va chercher à fixer des insectes ou à inciter à utiliser la plante pour d'autres vertus. Par exemple, on va proposer des fleurs comme la consoude, comme la valériane. On va jusqu'à l'ortie sauvage. Ces fleurs peuvent être un ingrédient dans la fabrication des purins pour certaines. Et pour d'autres, c'est pour leur rôle bénéfique au jardin par la fixation des auxiliaires ou pour repousser certains ravageurs du potager. On va ensuite travailler des fleurs qui sont utiles au jardin, de par soit le positionnement, soit par la plante en elle-même et ses propriétés. On va chercher par exemple à sélectionner quelques espèces qui peuvent résister dans des milieux très séchants, donc qui diminuent l'arrosage. Donc on utilise par exemple la valériane qui est le 138 fruber, parce que c'est une plante qui résiste très bien à la sécheresse. C'est une fleur vivace, assez facile à cultiver, et on va pouvoir la positionner dans des milieux un peu séchants et avoir un caractère esthétique, mais ne pas trop se préoccuper de l'arrosage. On va chercher à utiliser, par exemple, des plantes couvre-sol qui pourraient diminuer l'utilisation de produits phyto ou faciliter l'entretien de certaines rocailles. Et on peut avoir également, par exemple, une hypomée qui va servir de plante grimpante.
Donc on a fait le potager, le jardin, qu'est-ce que vous nous proposez d'autre ?
On va s'orienter vers la faune qui peut vivre dans le jardin ou en tout cas pour lequel on peut procurer une ressource alimentaire. Donc dans un premier temps, ce sont 10 fleurs utiles aux papillons et on va s'orienter sur les fleurs à la fois hautes qui peuvent par exemple héberger les chenilles. Hein, c'est le cas de l'aneth par exemple, hein, qui est aussi une aromatique. On va aussi regarder d'un peu plus près des plantes qu'on retrouve à l'état spontané comme le cardère, le panicot ou la centaurée jacée, qu'on propose sous leur forme sauvage et qui sont des plantes nourricières. Donc là, on cherche clairement à alimenter le papillon à l'état adulte.
Vous vous intéressez aussi après aux oiseaux ?
L'oiseau, dans sa phase de vie, a deux grandes périodes, une période granivore et une période insectivore. Donc nous, on va plutôt s'intéresser à la période granivore. Donc on a sélectionné par exemple la monnaie du pape, dont les oiseaux sont très friands, les tournesols, les échinopses et autres scabieuses, qui sont vraiment esthétiques, mais qui ont aussi une production granière très appropriée pour les petits oiseaux.
Et enfin, les pollinisateurs, on en a un petit peu parlé dans le potager, mais vous avez vraiment une gamme spéciale pour les pollinisateurs.
Voilà, l'idée c'est de répondre à tout type de pollinisateurs. On sait qu'aujourd'hui, il y a un contexte très peu favorable à l'abeille. Mais la famille des pollinisateurs, c'est beaucoup plus vaste et c'est vraiment une famille d'insectes indispensable pour le particulier, pour la fructification et pour les professionnels, puisqu'aujourd'hui les récoltes dépendent notamment pour la plupart de la pollinisation. Donc on a sélectionné 10 espèces, encore une fois, entre des annuelles et des vivaces, qui ont des propriétés mellifères. Et on essaye de réinviter des espèces sauvages dans le jardin, des espèces qui ont quand même un caractère esthétique, donc qui peuvent s'intégrer dans des massifs. C'est le cas par exemple de la digitale, de la vipérine ou des molènes.
Aujourd'hui, on peut dire que la société Novaflore, vous proposez pas des fleurs pour faire joli dans le jardin, c'est plutôt dans un objectif éco-responsable.
C'est le but qu'on s'est fixé quand on a créé la société, à deux niveaux, de par la sélection des produits qu'on peut proposer, hein, à la fois aux professionnels et aux particuliers, puisque la fleur en tant que telle peut répondre à de nombreux objectifs pour lesquels nous devenons de plus en plus soucieux. C'est une réponse aux problématiques actuelles par le végétal. Et puis, on a aussi un très fort attachement sur la société en elle-même pour initier nos salariés et les impliquer dans cette méthode. Donc on a créé un jardin participatif parmi lequel on peut observer les espèces de fleurs et des potagers qui permettent aux salariés de repartir avec les légumes et de leur expliquer au quotidien notre démarche. On a également la volonté de faire en sorte qu'il y ait une conversion des pratiques, un changement fondamental dans la manière de concevoir le jardin, et notamment ce rapport aux solutions pour gérer les ravageurs et l'enherbement dans un jardin.
Comment vous vous situez par rapport aux herbicides et aux produits phytosanitaires ?
De manière assez modérée. Mmh. Et aujourd'hui, il faut, je pense, appliquer la règle de bon sens, c'est-à-dire qu'on peut avoir recours à des produits phyto dans des moindres mesures et en respectant forcément les prescriptions. C'est un système complémentaire, c'est-à-dire qu'on va se placer en amont, où on essaye de restaurer un équilibre biologique, tout en sachant pertinemment qu'on peut pas forcément, même en ayant un milieu très diversifié dans lequel les auxiliaires régulent les ravageurs, ce n'est que l'état préventif. C'est un état indispensable sur lequel on ne travaille pas assez, de telle sorte à ce que le milieu soit quand même mieux régulé. On est vraiment sur le domaine de la protection des cultures, que ce soit pour le particulier ou le professionnel. Si l'attaque est raisonnée, on peut, par cet équilibre biologique, avoir des résultats qui sont tout à fait positifs et donc se passer de produits. Il faut pas être trop exigeant, c'est-à-dire que quand l'attaque de pucerons, par exemple, met en péril à la fois les légumes ou la culture, inévitablement, il faudra intervenir avec du produit phytosanitaire.
Quand vous proposez des prairies fleuries ou les jachères fleuries, il est évident que là, c'est pour éviter de mettre peut-être des herbicides.
Des herbicides, pas forcément, mais en tout cas, diminuer considérablement l'entretien de certaines surfaces. On peut diminuer l'utilisation d'herbicides lorsqu'on travaille, par exemple, en pied de rosier, en pied d'arbuste, où là on peut avoir un couvre-sol fleuri et donc accompagner la végétation spontanée. On a un phénomène d'acceptation beaucoup plus facile par la présence des fleurs. Et on peut diminuer l'entretien de dépendance verte en positionnant habilement une prairie fleurie, par exemple en l'apposant directement contre une haie et forcément en diminuant la surface de tente.